11h, 12h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi matin sur Europe 1. Il a été heureux d'apprendre que les préservatifs seraient bientôt pris en charge par la Sécu. Maintenant, il aimerait que les mauvais coups soient aussi remboursés. Jérémy Lorca.
Bonjour à tous.
Il n'a pas eu la chance d'être reçu par François de Rugy. En même temps, il ne connaît pas cette personne et ne sait pas trop à quoi elle sert. Mickaël qui regarde.
Exact. Bonjour, bonjour.
En tant que bretonne, elle pense que rattacher la Bretagne à la Loire-Atlantique, c'est aussi prudent que de rapprocher une flamme d'une bombe de gaz qui fuit. La détonnante Christine Bérou.
Bonjour.
Il trouve lui aussi qu'il y a souvent des défauts dans les meubles IKEA. Il ne dit pas ça parce qu'il n'a jamais réussi à en monter un tout seul. Le bricoleur du dimanche, Jean-Philippe Bizini.
Je suis un excellent bricoleur. Bonjour à tous.
Et celle qui aimerait recevoir tous les soirs une délégation d'hommes musclés en gilet jaune et uniquement en gilet jaune, la conciliante Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Bizini a décidé de se remettre au sport. Il nous racontera. Mickaël Quiroga nous expliquera pourquoi il a peur que ce soit le boxon. À 11h30, nous recevrons Stéphie Selma pour son rôle dans le film Pupille de Jeanne Héry qui sort mercredi prochain au cinéma. Et à 11h50, Laurent Dolch sera notre invité pour son livre Romanesque, la folle aventure de la langue française qui vient de paraître aux éditions Michel Lafond. Jérémy Lorca lui racontera qu'il aurait aimé vivre à une autre époque. Et Christine Bérou lui demandera son aide pour écrire un poème.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Puis on voudrait saluer dans le public, nous avons 29 jeunes filles et un jeune homme qui sont en première et terminale, SAPAT MFR de Condé-sur-Vire, c'est ça ?
Exactement.
Donc c'est lycée professionnel et ils sont aides-soignantes ou infirmières.
29 filles et un chanceux.
Qui s'appelle Steven.
Mesdames et messieurs, Steven !
Bonjour Steven.
Bonjour.
Alors t'as quel âge ?
J'ai 20 ans.
T'as 20 ans et t'es en quelle classe ?
Terminale SAPAT.
Terminale SAPAT et donc tu veux être quoi ? Infirmier, aide-soignant ?
Aide-soignant.
Aide-soignant ? Et alors qu'est-ce que ça fait d'être avec que des filles ?
Ah bah ça fait du bien.
C'est pas à toi de répondre, c'est à lui.
Moi je vais vous dire ce qu'il pense vraiment.
Pas grand chose.
Bon, grand chose.
Au début je voulais faire BEP carrosserie, j'ai vu qu'avec des mecs, j'ai laissé tomber.
Et alors t'entends toutes leurs histoires de filles du coup ?
Eh oui.
Vas-y répète.
Est-ce que t'as appris des choses sur les filles du coup ? Tu savais pas comment elles parlaient des mecs par exemple
ou... Non.
Est-ce que t'as compris comment elles marchent ? Parce que nous...
Tu leur donnes des conseils ?
Non.
Non ? Elles te demandent des conseils ?
Non plus.
Non ?
Va falloir y aller à un moment donné.
Et il y en a une qui te plaît là ?
Non.
Alors les filles...
C'est comme ça.
Et entre nous, la prof la plus relou, c'est laquelle ? Allez, regarde-la bien, il y en a trois.
C'est laquelle ?
T'as le droit de dire les trois, hein ?
La prof de géo.
Ah ouais !
La prof de géo ?
J'en étais
ça
sûr.
Balance grave.
Pourquoi elle est relou, la prof de géo ? T'as des mauvaises notes en géo ?
Bah ouais.
Non.
Non.
En anglais, oui.
En anglais, t'as des mauvaises notes ?
Ouais.
Parle anglais.
Non.
Ça peut pas être pire que moi, c'est tu sais. Pire. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Mardi dernier, lors de son discours à la télé, le président Macron a déclaré qu'il avait entendu les Français et qu'il allait changer de méthode, mais qu'il gardait le même cap. Traduction, on va toujours dans le mur, mais dans une autre voiture.
Laurent Wauquiez demande à Emmanuel Macron de nous sortir de cette impasse. Mais c'est un président, c'est pas un GPS. Remarque, Laurent Wauquiez, il s'y connaît en impasse, il en a fait son métier.
Les préservatifs vont être remboursés par la Sécu. C'est officiel, à lui tout seul, Jérémy Lorca va définitivement changer de la Sécu.
À partir de maintenant, les préservatifs seront, oui, remboursés par la Sécu. Le problème, c'est pas le prix du préservatif. Le problème, c'est le prix du repas que tu offres pour avoir l'occasion ensuite de te servir du préservatif. Et comme il paraît qu'on peut pas dîner à moins de 200 euros à deux, je préférerais que la Sécu m'offre le repas.
Tu n'as pas besoin de ça, Mickaël. Change tes t-shirts et tout ira mieux.
Okay. Merci, ça me redonne confiance.
La ministre de la Santé a annoncé que les préservatifs masculins vont être remboursés par la Sécurité sociale. Ok, mais pour être tout à fait tranquille, est-ce qu'on sera remboursé de nos frais si le mec c'est un mauvais coup ?
Ah oui ! IKEA doit rappeler 45 000 tables défectueuses dans le monde et en exclu mondial, on vous révèle comment ça s'est passé.
Jean-Pierre, il y a un problème avec une table. Ouais, je fais vachement bien le vendeur IKEA. Jean-Pierre, il y a un problème avec une table. Tu peux regarder, s'il te plaît ? Faut que je note le modèle pour le service réclamation.
Ouais, ok. C'est laquelle, là ? C'est la Krigenrollflug, la HLS Lugblug ou la Bonnemann-Massnegmen, hein ? Tu sais quoi ? On va toutes les rappeler, ça ira plus vite. Hein.
La sonde spatiale InSight a réussi à se poser sur Mars. On va enfin savoir s'il y a de la vie sur Mars.
Moi, je m'en fous tant qu'il y a des Mars dans ma vie.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Béroux, Jérémy Lorca, Mickaël Quiroga, Jean-Philippe Vizini et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un iPad en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Mickaël Quiroga, Jérémy Lorca, Christine Béroux, Jean-Philippe Vizini et notre chroniqueur stagiaire. On a un chroniqueur stagiaire aujourd'hui. Oui. Il s'appelle Steven et il est étudiant, aide-soignant à la patte de le faire de Condé-sur-Vire.
Oui, c'est ça,
genre.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est le moment de notre jeu.
Ah. Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Et comme Europe 1 est partenaire à la 10e édition de Longines Masters, dis-le Steven, Longines Masters.
Longines Masters.
Oh là là, vous êtes quoi, ça gagné pour le bac.
Longines Masters.
Longines Masters.
Vous êtes sûr que ça se dit pas Longines en fait.
Ah peut-être, c'est les Longines Masters. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 décembre au parc des expositions Paris Nord Villepinte, en marge du salon du cheval. Donc le thème aujourd'hui de notre questionnaire, c'est le cheval.
Le bruitage, Mickaël Quiroga.
Aujourd'hui, grâce à Europe 1, tenter de gagner un iPad, mais aussi un sapin de Noël et un bon d'achat botanique de 50 euros botanique, la jardinerie naturelle. On joue d'abord avec Thaïs. Bonjour Thaïs.
Bonjour Anne, bonjour les chroniqueurs.
Bonjour Thaïs.
Thaïs, vous êtes un homme ?
Oui.
D'accord. Et vous travaillez dans l'aide à la personne à Dijon ?
Voilà, c'est ça. Je m'occupe de... Je suis un peu garde malade en fait. Et je m'occupe de personnes qui ont des handicaps.
Eh bien c'est bien parce que là on a toute une classe d'aides-soignants et d'infirmiers avec nous.
Je suis heureux d'être avec vous.
Ah, c'est gentil.
Vous nous écoutez tous les jours ?
Oui, avec les personnes dont je m'occupe.
Elles font. Mais Anne Romanoff.
Ça me rappelle ma jeunesse.
Ils vous adorent, hein, ne vous inquiétez pas.
Bon, bah, c'est gentil.
Ça lui détend et ça, voilà, ça leur permet d'oublier un petit peu leur handicap pendant un moment.
Oh. Et Thaïs, c'est quelle origine ?
Alors là, aucune idée. Il faudrait que je demande à mes parents. Ils ont choisi ce prénom-là parce que ça leur plaisait, en fait.
Ah, ils se sont fait un délire personnel, quoi.
Voilà.
Et ça fait 30 ans que tout le monde vous dit c'est quelle origine et vous savez même pas répondre en fait.
Non, j'ai jamais trop cherché en fait. Mais à chaque fois on me pose la question pourtant.
Mais, bon. Mais ça existe ce prénom parce que moi j'ai jamais entendu.
Si, ma petite voisine elle s'appelle Thaïs.
C'est pas le Thalys ?
Mais non. Oh, Jérémy.
Votre voisine s'appelle comme ça, Jean-Philippe ?
Oui, la fille de mes voisins s'appelle Thaïs.
Oui, mais ça s'écrit T-H-A-I-T-R-E-M-A-S. Mais là, ça s'écrit Thaïs, T-A-H-Y-S.
Y-S,
ah ben ça, j'y suis pour rien, moi.
Pour dire que c'est un prénom rare. Bon, Thaïs, vous jouez avec qui ?
Ben, je vais jouer avec vous, Anne.
Ah, c'est hyper dur.
Ouais, c'est pas du tout facile. C'est un questionnaire cheval. Voilà.
Ah oui, j'y connais rien.
Moi non plus. Alors, attention, top chrono. Quand un cheval va très vite, on dit qu'il. Un cheval, quand il trotte et après.
Galop.
Ouais.
Galop.
Comment c'est un petit cheval ? C'est un tout petit.
Un poney ?
Oui, à l'endroit où sont les chevaux, sont réunis les chevaux pour les courses, ça s'appelle un.
Une écurie ou un box ?
Non, les courses de chevaux, c'est un. Bon, quelqu'un qui monte sur un cheval, ça s'appelle un. Vous savez, les gens, ils sont fluets là. Ils sont tout petits, ils ont un casque sur la tête, ce sont des.
Je passe.
Oh, d'accord, la femme du cheval, c'est une.
Madame Siffredi.
Oui, très bien. Un cheval, bon d'accord. Le tiercé, on dit, il y a aussi le tiercé, puis il y a le au-dessus du tiercé. Tiercé, c'est 3, quand il y en a 5, c'est le. Oui.
Non.
Oui, quinté.
Bah,
quinté. Oui, il l'a dit. Il a dit quoi ?
Il a dit quarté.
Il a dit quarté. Quinté,
il a dit.
Quarté, il a dit quarté.
Bah oui, mais. Ah bon ? Mais oui.
Là,
bon, bah alors, 3 bonnes réponses.
Oh non, vous êtes durs, les gars.
Bon, bah Thaïs, c'est mal barré quand même. Hein.
Oui, je pense.
Bon, on va voir comment se débrouille Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Bonjour Catherine.
Salut Catherine.
Bonjour public.
Catherine, vous êtes auto-entrepreneur ?
C'est ça.
03 Easer, c'est où ça ?
C'est pas très loin de Vichy.
D'accord. Et c'est quoi votre entreprise ?
Alors, je travaille en famille, donc mon frère est distributeur et on vend des aérosols peinture.
D'accord.
Ah, d'accord.
Et vous vendez chez les gens alors, à domicile ?
Alors voilà, mon frère fait la grande distribution et puis moi je m'occupe des particuliers, puis j'ai un commerce en ligne. Voilà.
D'accord. Et sinon, vous adorez faire la pâtisserie, vous faites des millefeuilles.
Oui, exactement. C'est ma spécialité.
Les millefeuilles.
Waouh.
Ouais.
Mais c'est compliqué, ça, non?
Non, une fois qu'on maîtrise bien la pâte feuilletée, c'est relativement simple.
Faut quand même compter les
feuilles. Faut maîtriser la salle de sport après aussi. Hein,
mais elle fait beaucoup de sport, Catherine Amousset, la natation, ouais. La course à pied.
Voilà.
Et vous savez faire du carrelage aussi, disons. Vous êtes une
femme. Oui, je bricole. Voyez,
vous êtes une femme. Vous êtes une femme polyvalente.
Ah oui.
On va dire ça.
Et alors, vous avez un homme dans votre vie ou...
Bah, pas besoin, elle pose déjà du carrelage.
Il est content parce qu'il mange bien et puis je m'occupe des travaux dans la maison, donc ça va.
Ah, il fait aucun travaux, lui. Ah,
bah non, bah, non, il a 1000 feuilles carrelage, qu'est-ce que tu veux de plus?
Eh oui, bah oui.
Bah ouais.
Non, il n'aime pas du tout.
Ah oui, c'est... alors il vous regarde poser le carrelage, ouais. Mais il participe.
Il fait l'inspecteur des travaux finis, puis voilà, il fait ses commentaires.
Ah, oh, ouais. Des fois ça doit vous énerver quand même, ça, non?
Elle s'en fout, peu, Catherine, ouais, elle est au-dessus de tout ça. Elle coule une dalle béton, exactement. Elle monte un mur.
Bah, Jean-Philippe Vizini sera intéressé pour vous épouser.
Il reste du boulot à la maison, là, si vous voulez.
C'est vrai?
Ah, oui, oui.
Bon, Catherine, vous jouez avec qui?
Alors, j'hésite entre le stagiaire et Jean-Philippe Vizini, mais je vais prendre Jean-Philippe.
Ok.
Il y a trois, c'est possible.
Thaïs, ça fait 3 bonnes réponses. Donc, si vous en faites 4, vous gagnez la tablette, l'iPad quand même. Hein. Attention, top chrono.
Le mari de Marion Cotillard.
Je sais pas.
Allez,
sais
pas. Si,
continue.
Un acteur. Bon, le cheval.
Le canet.
Ouais, voilà. Le cheval, soit il galope, s'il va moins vite, il.
Il trotte.
Ouais. Un endroit où on met tous les chevaux, c'est s'appelle comment?
Une écurie.
Sinon, autre chose.
Il y a écurie.
Il y a écurie.
Oui, mais c'est pas ça que je voulais faire. Sinon, alors il y a le quintet plus, mais sinon en dessous, s'il faut en deviner 3, c'est le.
Le tiercé.
Ok, c'est une marque de chocolat en poudre et c'est le petit du cheval. Ouais, là où si on monte sur un cheval et que le cheval il bouge, aux États-Unis là, on fait du. Ouais, quand on dit un cheval, un beau gosse, on dit c'est aussi un mec qui c'est un.
Que si Freddy.
Non, bon, c'est bien, on en a combien?
Un étalon.
Ouais, un étalon est arrivé après, mais bravo Catherine.
T'étais
un,
pas loin
deux,
avec Rocco si Freddy.
4,
en fait.
5, 6 bonnes réponses.
Non,
pas jeune, oui. On peut applaudir Catherine et Jean-Philippe Vizini. Donc Catherine, vous avez gagné.
Merci Jean-Philippe.
Merci Catherine.
Vous avez gagné.
On va venir faire un peu de carrelage à la maison pour.
Et nous, on veut bien que vous nous ayez un millefeuille pour Noël.
Ah bah oui.
Ah mais oui.
Vous avez gagné un iPad, mais aussi un sapin de Noël et un bon d'achat botanique de 50€ Botanique, la jardinerie naturelle.
C'est les 50€ qui vous mettent dans cette.
Ou c'est l'iPad?
Ouais, c'est l'iPad parce que ça va me servir dans mon travail et puis le sapin, ouais. Un sapin livré à la maison, mine de rien, c'est génial.
C'est super.
Et vous allez
ça évite de salir la voiture, c'est super.
Ouais, c'est vrai. Vous allez continuer à écouter l'émission, Catherine, vous l'écoutez tous les jours?
Ah, mais bien sûr.
Quel est votre chroniqueur?
J'écoute depuis à peu près 2 mois et puis quand je cours beaucoup, je l'écoute et puis maintenant, je lâche plus, voilà.
Ah, vous êtes gentil, Catherine.
Vous êtes géniaux.
Oh, merci. C'est qui votre chroniqueur? Votre chroniqueur préféré, c'est qui?
Celui qui vous a fait gagner un sapin.
Ça va encore être Vizini, tu vois.
J'aime bien Jean-Philippe.
Mais bien sûr.
J'aime bien Bénache.
Mais il n'est pas là aujourd'hui.
Oui, j'ai vu.
Et Jérémy Lorca, Christine Bérou, Michael Quiroga, non.
Vite fait.
Oui, mais moi.
On vous embrasse quand même, Catherine.
Voilà. Mais oui, vous complétez tous, c'est génial.
Ah, si on complète Vizini, ça va.
Moi, je veux pas trop que Jérémy me complète. Hein,
Bon, Catherine et Thaïs, on vous embrasse. Continuez à nous écouter.
Moi aussi, je vous embrasse.
Merci, Catherine. Merci, Thaïs.
Et continuez comme ça, c'est génial.
Merci, Catherine.
Si vous voulez vous aussi jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Michael Quiroga, Jérémy Lorca, Christine Mérou et Jean-Philippe Vizini qui a décidé de se remettre au sport.
Vous allez voir, c'est impressionnant.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Michael Quiroga, Jérémy Lorca, Christine Mérou.
Bonjour.
Jean-Philippe Vizini, notre
bonjour
chroniqueur stagiaire
Steven.
Alors vous savez que les préservatifs vont être remboursés à partir du 10 décembre par la Sécu. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle, Jean-Philippe?
Moi j'en ai pas besoin parce que je me suis fait ligaturer la trompe.
Mais Jean-Philippe, on dit pas. D'abord on dit ligaturer les trompes et c'est une opération qu'on fait sur les femmes.
Ah mince, je me disais il me restait plus grand chose entre...
Jérémy?
Oh mais c'est une super nouvelle, mais j'ai peur d'être un peu gêné vis-à-vis de mon médecin. Quand je vais lui demander l'ordonnance, je vais quand même devoir lui dire vous pouvez me mettre 4 boîtes en extra large s'il vous plaît, c'est gênant. non.
Le mytho.
C'est-à-dire, on pourra jamais vérifier en même temps.
Ouais, bah, et tant mieux d'ailleurs.
Jean-Philippe Busigny, vous avez pris une grande décision. Vous voulez vous remettre au sport?
Oui.
Après, il était temps. Hein.
Eh oh, ça va? Après l'été formidable que nous venons de passer, ponctué d'apéro, de barbecue et de rosé, il fallait bien qu'à un moment donné, je paye l'addition, mesdames, messieurs. J'ai pris 7 kilos.
Ça se voit pas, franchement.
C'est exactement ça que je voulais entendre. Alors, bien sûr, avec le prix de l'essence qui augmente, qui nous oblige de plus en plus à nous déplacer à pied ou à vélo, j'ai de grandes chances de perdre mes kilos en trop grâce à notre président Macron. Malgré tout, pour mettre toutes mes chances de mon côté, je me suis inscrit à la salle de sport. Enfin, inscrit. Réinscrit. Ça fait 5 ans que j'y vais. Chaque année, il m'offre le sac à dos, le t-shirt et la serviette. Sac à dos qui me sert ensuite pour faire les courses, le t-shirt pour bricoler et la serviette pour faire les vitres. Avouez, c'est vrai, on fait tous pareil. La salle de sport, on s'inscrit et on n'y va pas. Le mec qui a inventé ça, économiquement, c'est un génie. Il fait payer la moitié de la ville un abonnement que personne n'utilise, c'est énorme. Non mais là, cette année, c'est différent, je vais y aller. D'ailleurs, hier, j'ai fait mon premier cours. Séance encadrée avec le coach. Alors, il me dit, dans un premier temps, il faut réchauffer son corps. Pour ça, moi, je fais 20 minutes de rameur. Et toi ? Je dis, pour me réchauffer, je vais mettre ma doudoune et je t'attends près du radiateur. Il m'a expliqué ensuite que dans la journée, il fallait que je dépense plus de calories que j'en absorbe. Alors, je lui dis, comment on fait pour dépenser des calories ? Il me dit, par exemple, monter un meuble Ikea, c'est 200 calories. Apprendre à sa femme à le monter, 2000 calories. Et faire le tout sans s'engueuler, 3000.
C'est pas vrai, parce que souvent les femmes arrivent mieux à monter les meubles que les hommes. Ikea.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, c'est vrai.
C'est ma chronique, je fais ce que je veux.
Si j'ai envie mais moi, je veux pas laisser passer des réflexions sexistes.
Non, c'est pas sexiste, je vous jure que dans ma vie, c'est comme
elles
ça que ça se passe.
Elles sont très
méticuleuses. Toi, qu'est-ce que tu connais? Laissez faire quelqu'un qui maîtrise son sujet. Enfin, voyons, Jérémy Lorca. Les activités intellectuelles aussi. Faire les devoirs avec son fils de 9 ans, c'est 300 calories. Faire l'exposé sur le Pérou avec sa fille de 14 ans sans avoir envie de buter la prof de géo. Ça, en nombre de calories, c'est inestimable. Tu peux même arriver à maigrir à vue d'œil si tu y arrives. Pour le moment où j'en suis, on est au premier jour, mais je vous donne rendez-vous dans 6 mois pour vous montrer les résultats. Merci
de ton
beaucoup.
Corps.
Oui.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Samedi dernier, sur les Champs-Élysées, la boutique Dior a été pillée par des gilets jaunes. On ne sait pas si c'est des gilets jaunes ou des casseurs, mais enfin, elle a été pillée. Et donc moi, j'ai appelé les Dior pour leur dire que je pense que mon mari avait participé à ce pillage.
Christian Dior, bonjour.
Oui, monsieur, je suis à la boutique Dior.
Vous êtes avec la relation clientèle, madame.
Oui, monsieur, je vous appelle en toute confidentialité.
Bien sûr.
Parce que j'ai appris que vous aviez été cambriolé samedi par les gilets jaunes.
Effectivement.
Mon mari, il est gilet jaune.
D'accord.
Il a 72 ans. Et oui. Ça l'a échauffé, cette histoire, d'accord ?
D'accord.
Et il m'a ramené des bijoux. Et je crois que ça vient de chez vous.
D'accord, très bien, madame. Alors, je...
Mais moi, je ne veux pas aller en prison, monsieur. Hein.
Bien sûr, madame. Alors,
Mais moi, je voudrais ramener les bijoux en toute discrétion, mais je ne veux pas être ennuyée.
D'accord. Alors, ce que je peux vous proposer, madame, si vous me le permettez, c'est de vous mettre en attente un tout petit instant.
Oui.
Juste que je m'informe, que je vois comment je peux vous répondre sans que vous ayez de problème.
Oui,
sans
parce que je veux pas qu'il aille en prison. Il est casse-pied. Mais bon, il a fait ça. C'est pour moi qu'il a pris les bijoux. Il m'a dit c'est pas lui qui a détruit, mais il m'a dit c'était par terre, je l'ai pris. Mais j'ai dit ça vaut cher quand même ça.
Je comprends bien, madame.
Puis si on nous retrouve, s'il y a des antivols dedans, ça fait bip bip, on nous géolocalise tout ça.
Ne vous inquiétez pas, madame, je vais voir comment vous pouvez.
Et il a pris aussi une veste Dior noire,
d'accord,
taille
d'accord.
42, et je voudrais d'accord. bien la garder pour le mariage de ma nièce, et je vous la rends après.
Alors ça, je ne sais pas si ça va être possible, madame. Je vais voir, je vais voir ce qu'il peut être.
Voilà, les bijoux, je veux bien les ramener, en toute discrétion, ou je vous fais un chronopost, mais je ne dis pas que c'est moi qui les envoie, parce que je suis une femme honnête. Et puis la veste, je l'aurais bien gardée pour le mariage de ma nièce. Ça m'aura arrangé, mais je peux le laver en machine après à 60, puis il n'y aura pas de problème.
Si vous me le permettez, madame, je vous mets un tout petit instant en attente et je reviens vers vous tout de suite.
Revenez vers moi.
Oui, madame, vous êtes toujours là ?
Oui.
Est-ce que vous me permettez de vous passer ma responsable ?
Oui.
Je vous la passe tout de suite. Okay.
Oui, madame, bonjour. Oui,
vous n'allez pas...
je ne prends aucune information.
Vous ne me dénoncez pas au GIGN ou tout ça ?
Absolument pas, madame. De toute façon, je ne sais même pas qui vous êtes. Je n'ai pas de numéro de téléphone. Alors, ce que je peux vous proposer, madame, vous êtes sur Paris toujours ?
Non, je suis en banlieue. Parce que c'est ça qu'on est en banlieue. On est à l'Isle-Adam et il n'arrive pas à faire le plein de sa Kangoo. Et c'est ça qui l'a rendu fou.
Moi, ce que je peux vous proposer, si vous avez la possibilité de vous rendre à n'importe quel moment sur Paris, ce serait déposé de manière anonyme dans un colis. Tout ça au siège de la maison Dior.
Je mets les deux bagues et je disais au petit jeune homme qui est gentil comme tout qu'il a aussi trouvé une veste noire et qui me va bien, Dior. Et je l'aurais bien mis pour le mariage de ma nièce et je vous la rends après. Est-ce que c'est possible ça ou...
Alors, moi, je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous pouvez faire, madame.
Oui.
Maintenant, c'est un objet qui a été volé. Oui. Tout ce que je vous demande, c'est si vous souhaitez nous rendre des objets.
Oui, je vais tout rendre.
Je ne peux pas vous dire, garder un objet et ramener-le plus tard. Non, c'est pas possible. Légalement, c'est pas le droit.
Et vous allez me faire un petit cadeau pour me remercier de mon honnêteté ?
Alors, à ce moment-là, il faudra vos coordonnées.
Ah oui,
et donc,
c'est ça.
Si nous avons vos coordonnées, ça veut dire que monsieur, monsieur est considéré... Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, ce que nous souhaitons, c'est trouver une solution avec
Il se réveille de la sieste, là.
Voilà.
Il se réveille.
Très bien.
Non, tais-toi, je parle à Dior.
Ah. Il vous suffit juste, vous ne donnez aucune information et vous déposez les articles, madame.
Je dépose les articles et
raccroche.
Puis... Voilà. Tais-toi.
Je les ai achetés, je te dis.
Tu ne les as pas achetés. Comment tu les as achetés ? Tu n'as pas d'argent pour l'essence, pourquoi tu les auras achetés ? Madame, je vous laisse parce que ça... Donc je dépose...
Très bien, madame.
Bon. Je dépose les deux bagues et la veste. Il vaut mieux que je m'en achète une chez Promode, j'aurai moins de problèmes.
S'il vous plaît, madame, ce serait parfait en tout cas.
Bon, et je vous laisse mon nom quand même, en toute discrétion.
Je vous écoute.
C'est Anne Roumanoff.
Donc vous êtes Madame Roumanoff ?
Oui.
Vous avez le même nom que l'humoriste, c'est ça, madame ?
Oui.
Donc Madame Roumanoff de l'Isle-Adam ?
Oui.
Ah bah super, alors.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
C'est génial. Quand on voit la gentillesse avec laquelle Dior parle aux voleurs, j'imagine même pas comment il parle aux clients.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europa avec Jean-Philippe Vizigny, Jérémy Lorca, Mickaël Quiroga, Christine Bérou et notre invitée, la comédienne Stéphie Selma, qui vient nous parler du film Pupille qui sort mercredi prochain au cinéma.
Anne Romanoff sur Europa.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi matin. Avec Mickaël Quiroga, Jérémy Lorca, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizigny, la classe de la pâte de la menena de Condé-sur-Mer. Et notre invitée Stéphie Selma qui est venue nous parler du film Pupille qui sort
Le 5 décembre.
Qui sort
dans une semaine.
Dans une semaine. Bonjour Stéphie Selma.
Bonjour.
Alors on vous a découvert dans la série 10%.
Oui. Et
c'est... donc vous avez fait plein de rôles depuis. Vous avez été dans Prof.
J'ai même eu la chance de tourner aux États-Unis grâce à 10%.
Wow. Vous avez tourné quoi aux États-Unis ?
Un film de Michael Mayer. C'est un film qui s'appelle Happy Times et c'est du cinéma indépendant américain.
La vie vous avez drôle. Un grand rôle Super. Ou un petit rôle ?
Ouais, c'est un rôle important.
Ouais, c'est vrai.
Super.
Ouais, donc c'est cool.
Ça faisait quoi de jouer en anglais tout d'un coup ?
Bah, c'était très surprenant.
C'est meilleur que Anne Romanoff en anglais ou
Peut-être pas.
Je
ne
sais pas qu'est-ce que ça dit. Moi, je fais illusion aussi. Hein. Je suis pas.
I'm very happy to receive you.
Wow.
Non, mais
elle a
alors.
Pris des cours pour ça.
Vous avez pris des cours pour jouer bien.
En fait, j'ai eu une coach, mais je jouais le rôle d'une actrice française, mais qui parlait en anglais pendant tout le film. Donc, il tenait à ce que je garde mon accent français, pour le coup. Donc, voilà, c'était une expérience fabuleuse, mais surprenante, parce que ça s'est fait en 4 semaines.
D'un coup, vous vous retrouvez aux États-Unis.
Ouais.
Alors que pour 10%, vous avez entendu longtemps la réponse. Vous avez passé des essais au mois de février.
Oui.
Vous n'avez pas eu de nouvelles et tout d'un coup, au mois de juin, ils vous rappellent.
Tout à fait.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ?
Je ne sais pas. Non, mais ce qu'on m'a dit, c'est que... En fait, ils ont fait des callbacks, c'est-à-dire qu'ils ont fait une première, gens, voilà, ouais. première sélection. Et en juin, parce que Cédric Lapiche, à l'époque, tournait un documentaire, je crois, a souhaité revoir les gens qui étaient potentiellement les personnes
et
pour les rôles.
Il vous a revus et puis paf.
Bah, en tout cas, c'était un casting assez particulier parce que je suis arrivée avec ma guitare, j'allais en répétition et je me suis retrouvée à jouer de la guitare.
Parce que vous chantez aussi, Stéphie Selma.
Oui, oui, oui.
Vous avez participé à des comédies musicales.
Tout à fait, et c'est comme ça que j'ai...
Et vous aimeriez sortir un album ?
Bah, ça fait partie des rêves, évidemment. Mais j'aimerais surtout continuer à faire de la musique parce que ça fait partie de ma vie. Et j'ai eu la chance cette année de partir à Kinshasa et de rencontrer des musiciens incroyables. Donc on verra où ça nous mène, mais c'est vrai que...
Vous avez été aussi mannequin, vous n'avez pas du tout aimé cette période. Vous dites que les hommes vous regardaient comme un morceau de viande, des pieds à la tête.
Bah, homme-femme, hein. C'est-à-dire que pour le coup, je devais avoir 14 ans. Et Dieu merci, j'ai rencontré des vraies personnes bienveillantes. Mais ce que je trouvais assez compliqué, c'est qu'on arrivait, on donnait notre book, on le regardait 10 secondes. À peine, on te regardait dans les yeux et on disait merci, au revoir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour ces filles qui font ce métier, parce que je me dis que, en tout cas, quand on commence, c'est pas vraiment basé sur l'humain, quoi. C'est un peu le défilé, justement.
Je vous présente quelqu'un qui n'a jamais été mannequin.
C'est pas faute d'avoir essayé.
Michael Quiroga. Vous avez peur que ce soit le boxon, là, en ce moment ?
Oui, Anne. Et pourtant, hein, bon, moi, je me faisais une joie d'accueillir une super comédienne, Stéphie Selma. Oh. Non, vraiment, super comédienne. Merci. En plus, je me faisais une joie parce que, en plus, c'est une compatriote hein, de la Martinique.
C'est
oui.
pas vrai.
Oui, c'est en monde qui comptait.
Mais bien, c'est mon monde de Saint-Esprit.
Moi, c'est en monde de Brégère.
C'est pas vrai.
Moi, c'est en monde de Brégère.
Mais non, mais non.
Andio, moi, c'est en monde de Brégère.
On peut avoir la version sous-titrée.
La version Tropic FM, tout de suite, on écoute Thierry Chalme.
Non, mais c'est vrai, c'est pas une légende, on est partout. Faut juste faire gaffe. Parce que si on devient tous des stars, qui sait qui va distribuer le courrier. Donc super comédienne, alors que vous vouliez être coiffeuse quand vous étiez petite.
Tout à fait.
Bon, clairement, vous avez lâché l'affaire.
C'est
non,
ça.
Non, franchement, je trouve vos cheveux naturels, mais magnifiques. Franchement. Bah, moi, je trouve ça,
beaucoup.
C'est somptueux, c'est majestueux. Mais c'est pas des cheveux, c'est du velcro.
Bah, on fait ce qu'on a avec ce qu'on a, c'est-à-dire ma vraie nature, et j'en suis fière hein, aujourd'hui.
Ouais. Mais en tout cas, si on vous jette sur la tête de Kev Adams, vous allez rester accroché 8 ans. Hein. Voilà. Bref, je me faisais une joie. Donc, et puis, le président a parlé. J'étais sûr qu'il fallait qu'il se taise. Hein. Dans le conflit qui les oppose aux Gilets jaunes et Emmanuel Macron, qui cristallise tous leurs griefs, c'est d'un autre tonneau. L'une des critiques les plus entendues, c'est le président ne sait pas ce qu'est une fin de mois difficile. Alors, il ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un mois difficile, mais il est probablement parti pour comprendre ce que sont 5 années difficiles. Alors, moi, je dis ça, je dis rien, je suis humoriste, j'y connais rien en politique. Mais quand même, la dernière fois que j'ai vu le président à la télé, il m'a fait de la peine. Il faisait une petite tête, alors qu'il était arrivé plein de bonne volonté, vous voyez, en mode.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être.
Il n'avait pas parlé depuis 10 minutes que la réponse des Gilets jaunes, c'était...
Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances.
Et ça les fait rire, vous êtes des gamins, c'était franchement pas sympa. Il était triste le président, il avait l'air désemparé, le pauvre, on aurait dit Jean Lassalle au rayon des eaux minérales, vous voyez. Si les gens lui demandent « je bouffe quoi dans 3 jours ?», il leur répond « je vous dis ça dans 3 mois », il est certain qu'ils vont avoir du mal à se comprendre. Les gens lui parlent « fin de mois », il leur répond « fin du monde ». Le problème pour les Gilets jaunes, c'est que la fin de mois, elle va sûrement arriver avant la fin du monde. C'est bientôt Noël et il y a beaucoup de gens qui ont peur de devoir choisir. C'est soit ils sortent à pied pour acheter les cadeaux de Noël, soit ils font le plein et ils n'ont plus de sous pour les cadeaux. Tu vois, cette année, le cadeau, c'est le plein. Et en prime, une photo de la jambe de la belle-mère avant épilation en guise de sapin de Noël. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, avec ce qui se passe, on se dit heureusement que les rênes du Père Noël, eux, ne marchent pas au diesel. Merci de votre patience.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Stéphie Selma, notre invitée, venue nous parler du film Pupille qui sort le 5 décembre, un film de Jeanne Herry avec Gilles Lelouch,
Sandrine
Kiberlin
et Élodie Bouchet et plein
Bouchet.
De super acteurs.
Ne bougez pas, on en parle dans quelques instants.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Michael Quiroga, Jérémy Lorca, yes. Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre invité Stéphie Selma, venue de parler du film Pupille qui sort le 5 décembre. C'est un film sur l'adoption, Stéphie Selma ?
Tout à fait, c'est un film sur l'adoption, écrit d'ailleurs et réalisé par la grande Jeanne Herry. C'est un film qui... Je suis vraiment très touchée d'en faire partie et j'espère que c'est un film qui fera son petit chemin. Et...
Il paraît qu'on est très ému en regardant ce
film.
Mais
rien que la bande-annonce, moi j'ai fondu en larmes quand on voit le petit bébé qui comprend ce qu'on lui dit.
vif.
Bien
en fait.
Sûr.
C'est impressionnant.
Et moi, en lisant le scénario, j'ai fondu en larmes.
Vous, vous jouez une aide-soignante, Stéphie Selma.
Oui, une auxiliaire de puériculture. Et,
La maman qui adopte, c'est Elodie Bouchèze.
Oui, tout à fait. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on suit le parcours de tous ces intervenants et on se rend compte à quel point c'est pas simple d'adopter en France. Et je trouve que c'est un petit bijou. Et,
vous êtes fière dans ce projet,
Jeanne ? Je suis très heureuse d'en faire partie parce que c'est quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et Jeanne, on s'est rencontrés sur 10% parce qu'elle avait réalisé 2 épisodes. Et quand elle m'a proposé ce rôle, j'ai été vraiment très touchée qu'elle pense à moi pour ça parce que je n'avais jamais eu l'occasion de jouer ce genre de rôle.
Dans les années qui viennent, vous aimeriez faire de la musique, j'imagine, parce que
j'en fais depuis très petite. Je suis née dans une famille de... Mes parents sont plutôt mélomanes, mais pas musiciens. Mais mes cousins, cousines, tantes ont fait du gospel pour la plupart. Et c'est vrai que j'ai baigné dans ça. Et j'ai toujours fait de la musique. J'ai appris le piano classique plutôt jeune. Et je me suis mis à la guitare depuis quand je suis arrivée à Paris, parce que le piano dans 10 mètres carrés, c'était compliqué. Ouais. Je sais que j'en ferai toute ma vie pour le plaisir. C'est ce
on
qui
a
compte.
Dû déjà vous proposer de faire des albums maintenant que vous êtes un peu connu et tout ça.
En tout cas, là, j'ai un projet en cours. On verra ce que ça dit, ouais.
Composer, chanter.
Ouais, composer.
Écrire les textes
aussi.
Ouais,
je co-écris, mais ouais.
Je suis sûre que ça sera très bien.
C'est gentil comme ça. Mais en tout cas, j'y mets tout mon cœur et je me dis que j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Parce que quand on joue un rôle, on se cache derrière un personnage et là, on met le cœur sur la table. Donc moi, qui ai beaucoup de pudeur aussi, c'est un vrai exercice. Et c'est vrai que, si je présente quelque chose, ça sera quelque chose qui me ressemble où j'aurais mis tout mon cœur, sinon je préfère ne rien faire et continuer à le faire chez moi.
En tout cas, dans ce film, vous avez mis tout votre cœur et c'est un très beau film qu'on vous conseille. Ça sort la semaine prochaine.
Oui,
Pupille de Jeanne Herry.
De Jeanne Herry.
Avec Gilles Lelouch, Sandrine Kiberlin, Miu Miu.
Elodie Bouchèze, Miu Miu, Olivia Cotte.
Et Stéphie Selma.
Voilà, et plein d'autres.
Bravo.
Voilà.
Merci Stéphie Selma d'être passée nous voir. On rappelle la sortie de ce film mercredi 5 décembre, Pupille de Jeanne Herry, un film très émouvant sur l'adoption et sur les bébés avec un très joli regard sur les bébés.
Oui, venez parce que vraiment c'est un petit bijou et c'est pas parce que je me retire du projet et en toute objectivité je me dis que c'est un film qui mérite d'être vu par le plus grand nombre.
On se retrouve dans quelques instants avec Laurent Deutsch qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Midi 30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Mickaël Quiroga, Christine Béroux, Jean-Philippe Vézini et notre invité. Nous avons le plaisir de recevoir le fils caché de Fernand Braudel, de Léo Mallet, le cousin par alliance d'Alain Decaux, un admirateur de Michel Platini, de Jean-Paul Belmondo, un Français de sang mêlé, un acteur, un comédien, un fan de foot. Mais ce midi, c'est surtout le conteur que nous recevons à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage romanesque, La folle aventure de la langue française. Ce midi, notre invité est Laurent Deutsch. Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour à tous.
Alors après les passionnants Métronome 1 et 2 qui s'intéressaient à Paris et à ses secrets, vous vous êtes penché cette fois sur la langue française. C'est un vaste programme quand même. La langue française, vous dites que c'est une jeune fille capricieuse et mutante dans laquelle on trouve du latin, du sel, de l'arabe, du breton, de l'occitan, de l'anglais, du verlan, des fautes d'orthographe.
Oui. Et surtout, ils s'y trouvent nos ancêtres. Quand vous parlez cette langue de France qui nous permet de nous comprendre les uns et les autres, eh bien nous convoquons un ancêtre. Les mots ne sont pas sans relief, ils ne sont pas passifs. Ils ont une histoire, ils ont un message à nous dire pour peu qu'on veuille bien y prêter l'oreille.
Mais pourquoi vous prenez une voix comme ça?
Parce que j'essaie d'inviter les trucs à un truc un peu épique, quoi, parce que c'est un grand voyage. C'est pour ça que ça s'appelle romanesque. C'est un grand roman d'aventure, la langue française. Et surtout, ça permet de nous rappeler ceux qui nous ont précédés. La France, c'est peut-être 70 millions d'habitants, mais c'est surtout 3 milliards de morts. Ils ont des trucs à nous dire, faut pas les oublier. Ils ont créé ce pays et ils ont fait cette langue qu'on parle et qui permet de nous renseigner sur nous-mêmes. Alors allons nous renseigner sur eux à notre tour.
Qu'est-ce que vous prenez le matin?
Je savais pas qu'il y avait du whisky à la cafette, moi.
Alors, en fait, la langue française, vous dites, c'est une partousse de mots, une salade niçoise d'expressions, un gloubi-boulga d'influences diverses. Alors, il y a la langue de voix, quand elle est pratiquée par les élites. Elle peut être de vipère quand elle est pratiquée par Jérémy Lorca. Elle peut être de bœuf quand c'est Jean-Philippe qui cuisine. Et elle n'est pas figée, en fait, la langue. Elle évolue sans cesse, elle se cabre, elle se rebelle, elle se tord. En fait, on dirait l'aiguille de ma balance ce matin.
Oui, je pense que la langue n'est pas figée. elle est dynamique, elle est en mouvement. De temps en temps, ça fait peur, surtout en ce moment où on a la sensation qu'il y a un appauvrissement général. C'est vrai que les jeunes parlent avec moins de mots, hein, ils s'expriment avec entre 300 et 600 mots. Rassurons-nous, ils en comprennent beaucoup plus. Mais ce
nous avons des jeunes d'ailleurs dans la salle qui ont.
Non, mais nous tous, d'ailleurs, après, c'est assez homogène et ça se répand. On parle avec moins de mots parce qu'on est dans une époque du tout de suite. Il faut aller vite, c'est l'immédiateté. Donc, il faut des mots punchline, il faut des mots courts, il faut des mots brefs, il faut des mots qui résument un petit peu tout.
Vous dédiez ce livre à Jamel Debbouze parce que vous dites qu'il vous a appris à découvrir la langue, Jamel Debbouze.
Ouais, pour moi, quelqu'un comme Jamel, qui est un poète, qui a transformé une lacune en qualité, qui maîtrisait forcément, je pense, assez mal la langue, et ben aujourd'hui, il est dans le dictionnaire. Parce que comme il la maîtrisait mal, et ben il l'a pris par les cornes. Et puis, elle réclame ça, elle revendique ça, elle est pragmatique, c'est l'usage qui prévaut. Et pour être compris, Jamel, il n'a pas hésité à la tordre et à inventer des mots nouveaux, des néologismes, qui, comme il a une sensibilité incroyable et qu'il est poète et qu'il est génial, eh bien, ça fait que ces mots-là, aujourd'hui, tout le monde les emploie, ces expressions, comme passer du coq à light, par exemple, eh bien, ça fera partie du dictionnaire. Et c'est tant mieux, c'est comme ça que la langue française avance depuis toujours.
Donc vous n'êtes pas comme ces puristes qui disent, mon Dieu, dès qu'on... qu'il y a des fautes d'orthographe, vous dites que justement c'est ça qui fait évoluer la langue et qu'elle a toujours évolué comme ça, la langue française.
Alors je dis qu'il faut des puristes parce que évidemment on a besoin de figer, on a besoin de codes, on a besoin de règles pour pouvoir se comprendre les uns et l'autre et les autres, sinon ça devient une cacophonie ambiante. Mais la langue a besoin aussi de novateurs, voilà, de gens qui vont aller dans l'audace, peut-être même dans l'outrage, parce que la langue, elle est un peu comme un accordéon, vous savez, cet instrument qui nous symbolise aussi très bien, je trouve. De temps en temps, elle est en expansion, donc elle va s'enrichir de mots nouveaux, de plein de découvertes, etc. Et de temps en temps, elle va être en contraction où elle va essayer de récupérer un peu tout ce qu'on a inventé pour fixer des règles et une syntaxe, parce que pour qu'une langue soit intelligible, il faut qu'elle soit objet de savoir, elle soit objectivée et qu'elle devienne figée, parce que sinon elle disparaît. Ça a été le cas du gaulois. Sinon, on parlerait. Si le gaulois avait été fixé par des règles, eh ben, il aurait perduré. C'est parce qu'il n'a pas eu de règles qu'il a disparu. Donc, il faut la fixer. Donc, les académiciens et les puristes sont nécessaires aussi. Ça oscille entre les deux. Le jongleur et le clerc. L'universitaire et l'inventeur.
Calmez-vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Laurent Deutsch, venu nous parler de son livre romanesque « La folle aventure de la langue française » qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec notre invité Laurent Deutsch, qui a pris des substances qu'on ne connaît pas, qui est venu nous parler de son livre « Romanesque, la folle aventure de la langue française » aux éditions Michel Lafon. Vous êtes toujours comme ça, une boule d'énergie, Laurent Deutsch ?
Bah, disons que j'ai envie de parler des choses qui me captivent et qui me passionnent. Et c'est vrai que je suis très, très fier de ce livre et d'avoir fait ce voyage aux sources et aux origines de la langue française, parce que c'est le meilleur moyen de se comprendre et de parler de ce terme qui, malheureusement, aujourd'hui, est devenu synonyme et un mot courtois et moderne pour parler de racisme, qui est l'identité. Je trouve que l'identité, elle n'est pas du tout clivante. L'identité, au contraire, elle peut être rassembleuse. On a une identité française. Cette identité, c'est notre géographie et notre langue. La langue qu'on parle, qui nous appartient, qu'on a en héritage, donc qui est le fruit d'un grand voyage, d'un métissage, de toute une aventure qui est l'histoire de France. Et c'est passionnant. Donc oui, je suis là avec passion pour défendre cette identité française qui est généreuse.
Mais vous étiez
n'ayons
comme...
pas peur du mot identité. Regardez, c'est formidable, c'est ouvert, c'est gourmand, c'est tourné vers l'autre.
Laurent Deutsch, finalement, votre carrière de comédien a quand même super bien démarré, parce que votre premier casting, série canadienne Les Intrépides, vous êtes engagé tout de suite, vous n'aviez rien fait.
Ah, j'avais rien fait, ouais. Mais c'est vrai que j'ai été pris à mon premier casting.
Parce que vous faisiez plus jeune que votre âge.
Parce que je faisais plus jeune que mon âge. J'allais sur mes 15 ans, 16 ans, et il fallait que je fasse 11, 12 ans. Donc vis-à-vis de la DAS et de l'administration et de la loi,
c'était
on
pratique.
Peut faire travailler plus longtemps un enfant de 15, 16 ans qu'un enfant de 11, 12 ans. Donc ça a été un avantage certain, ouais, grâce au fait que je faisais plus jeune, j'ai pu être choisi par rapport à d'autres gamins.
Et là, vous avez quel âge, Laurent Deutsch ? Vous avez quel âge maintenant ?
85.
43.
43, c'est vrai que vous faites moins.
Département de la Loire.
Il fait 39.
La Haute-Loire.
Non, mais c'est oui. Ça qui est génial. C'est qu'à mon avis, on a dû vous charrier vachement sur le fait que vous soyez plus jeune et finalement, c'est devenu un atout pour travailler. Ça a été super.
Oui, ça
vous avez transformé, quoi.
J'ai surcompensé, comme dirait le psychanalyste Adler. Hein. J'ai fait de la surcompensation favorable. et ouais, j'ai développé ce qui a été un défaut et qui a été préjudiciable au départ, notamment quand je voulais faire footballeur, est devenu un vrai avantage. Ouais.
À 20 ans, vous reprenez des études, un double cursus philosophie, langue et civilisation hongroise. Vous parlez hongrois alors ?
Artigen, bah c'est l'acte qu'elle était, je m'en
vous parlez hongrois avec vos parents ?
Avec mon père un peu, ouais, avec mon père. Mais mon père, il est pas trop hongarophile et c'est surtout dans les gros mots, les grossièretés. Donc c'est en fait, quand j'étais petit, je tendais l'oreille quand j'entendais mon père parler hongrois, je me suis dit, oh, c'est en train de barder là, ça chauffe.
Et c'est comment les gros mots en hongrois?
Ah, ton karom kodash, menyo kurva picha ba.
Ça veut dire quoi?
Hello, force en shagad, ben. De force en kivan, televan en tokum. Oh là là,
j'en ai balancé la main. Aïe
aïe aïe, ouais, kurva niade.
Mais je comprends rien de ce que vous dites.
Force un mec. Non mais kurva, c'est la langue, c'est le mot international de l'Europe de l'Est. Hein. C'est putain en fait.
Kurva.
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 Ça se dit dans tous les pays de l'Est, ça.
Ah oui.
Ouais, kurva.
Si on est.
En Pologne, en République tchèque.
C'est pas un truc très bien à dire pour sympathiser.
Non, mais c'est, bizarrement, c'est souvent par quoi on commence. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça reflète aussi une histoire. Par exemple, au Québec, la plupart des gros mots sont tournés sur la religion.
Oui, tabarnak.
Tabarnak, ciboire, Saint-Sacrement, Carlis, enfin bref. Et alors qu'en Hongrie, particulièrement, c'est très sexuel. Il y a peu d'insultes qui ont des références religieuses. C'est vraiment le sexe.
Eh ben, ça donne envie d'y aller. Hein.
Ah ben, c'est des pros. Hein. À Budapest, il y a quelques professionnels de la chose.
Alors, dans votre livre, La folle aventure de la langue française, on découvre l'origine de certaines expressions. Par exemple, d'où vient le doigt d'honneur, Laurent Deutsch?
Le doigt d'honneur qui vient du... Autrefois, c'était le doigt impudique. Et c'est vrai que je l'ai situé pendant la guerre de Cent Ans, avec ces fameux archers anglais qui ont été responsables des grandes défaites de la chevalerie française, qui se battaient encore comme des balours en y allant en première ligne alors que les Anglais étaient planqués derrière des boucliers et puis balançaient des flèches à distance. Donc ça a totalement entraîné des défaites déséquilibrées pour l'armée française. Et donc les Français ont commencé à chercher les archers pour les tuer, ou en tout cas les rendre incompétents pour bander leur arc et tirer leurs flèches. Et donc du coup, quand les archers se planquaient dans des châteaux, etc., ils montraient leurs doigts. Soit ils faisaient lever de la victoire, puisque c'était avec l'index et le majeur qu'on bandait la corde de l'arc, soit ils tendaient le majeur pour signifier qu'ils avaient encore toute leur capacité de nuisance, et donc ça a donné cette espèce de doigt d'honneur. Mais on sait que dès l'Antiquité, on utilisait, notamment Aristophane chez les Grecs, en parle comme du doigt impudique, qui était une manière d'insulter quelqu'un en levant le doigt. Donc c'est quelque chose qui date pas d'hier.
Et vous, dans votre livre, vous donnez l'origine de plusieurs mots. Par exemple, bistro, c'est un mot d'origine russe.
Oui, qui était bistre, qui veut dire vite, vite. C'était une expression qu'on a attribuée aux Cosaques quand ils ont envahi Paris pendant la campagne de France sous Napoléon. Donc, ils étaient aux portes de Paris et entre deux combats, ils allaient boire un coup. Donc, ils allaient dans les estaminets, dans les bistroquets. Et ils disaient bistre, vite, 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 servez-nous parce qu'après, on doit encore aller tuer quelques crânes. C'est ça, bistre.
Bon, bah, bistro, on se retrouve dans quelques instants. Pour la suite de cette émission avec Laurent Deutsch, je vais nous parler de son livre romanesque, La folle aventure de la langue française, aux éditions Michel Lafon.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jérémy Lorca, Mickaël Quiroga, Christine Bérou, Jean-Philippe Bézigné, notre invité Laurent Deutsch. On a l'impression, Laurent Deutsch, que du coup, depuis que vous avez ce succès énorme, les métronomes et tout, vous faites moins de cinéma. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, je me passionne vraiment pour cette géographie qui m'entoure. Et donc, je pars à la recherche d'histoire avec ce média-là, avec ce support-là. Ce qui fait que je délaisse...
Vous êtes fou, vous avez 700 livres sur Paris. Vous lisez tout le temps
dans
un livre.
Oui, j'adore ça. Mais en plus, mon quotidien, ma réalité... Vous savez, quand on aime l'histoire, certains vous disent « Ah bah oui, ça veut dire que vous préférez le passé, vous vous réfugiez dans ce qui était avant, vous aimez pas la réalité d'aujourd'hui. » C'est tout le contraire. C'est parce qu'on est interpellé, curieux de notre présent, amoureux de notre présent, qu'on va en chercher ses racines. Et ses racines, c'est son histoire. En ce moment, je me suis mis sur les réseaux sociaux où je développe une chronique qui s'appelle « À toute berzingue », où je vous raconte l'histoire d'une ville en 5 minutes, tout en courant, livrée chez vous, plus vite que la redoute. Parce qu'il faut aller vite sur les réseaux sociaux. Et ça me passionne.
Ça, c'est sur YouTube.
C'est sur, sur mon compte Facebook et Instagram que mon frère a créé pour l'occasion. Et qui s'appelle, allez sur Laurent Deutsch officiel, hein, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est passionnant. Et voilà pourquoi je tourne moins, je travaille moins, parce que je suis sur mes propres projets qui me passionnent.
Parfois, vous refusez des films pour faire vos projets d'histoire?
Disons que la plupart des films, en plus, se tournent l'été. Et l'été, je le consacre aussi un peu à mes enfants. J'ai envie de... Mon plus beau rôle, c'est celui d'être papa. Donc, j'ai envie de les voir grandir. Je ne veux pas passer à côté. Et c'est vrai que c'est une fierté de ne pas passer à côté et de les avoir vus pousser.
Et votre femme, ça la saoule pas trop, toute l'histoire, tout ça?
Elle m'a mis plusieurs avertissements, là. Mais non, ça va, elle est contente.
Quoi comme avertissement?
Non, mais elle est... Elle regarde l'histoire un peu avec mes yeux et elle est aussi mon premier public et je me rends compte que j'arrive à la à la captiver. Je sens qu'elle a un regard un peu plus pétillant. Et quand on va dans une ville, elle me dit tout de suite, ah bah ça y est, tu vas encore tourner un truc pour ta chronique. Et je fais, non, pas du tout, on y va pour les crêpes, il y a une spécialité. Attends, les crêpes dans le Jura, c'est quand même hyper connu. Attends, la choucroute au Pays Basque, faut pas rater ça. Alors allez-y, mangez votre choucroute, moi je vais tourner un petit truc.
Ah oui, donc
ouais, je fais des voyages utiles un peu.
Ah, mais vous l'amenez des fois au bord de la mer pour rien faire, quand même.
Ah bah oui, on a sur ma chronique à toute berzingue, on était à La Rochelle.
À La Rochelle, non mais je parle au soleil.
Oh bah il fait très beau à La Rochelle.
Non, j'ai pas dit qu'il faisait pas beau, mais
non mais
je veux
sans
dire...
chronique, sans faire de chronique, vous l'amenez dans des endroits un peu romantiques.
Un petit Marmara, Djerba, voilà.
Il y a des trucs, mais il y a des trucs à dire sur Marmara, sur la mer Marmara. Tout. On arrive à trouver du moment pour partir en vacances.
Des fois, est-ce que parfois vous...
Mais excusez-moi, mais cette curiosité qui m'amène à me poser des questions sur tout m'emmène en vacances, quoi. C'est le plus beau des voyages. Je vis dans une réalité augmentée, quoi. Vous allez chercher le pain et les métros, ou vous allez au travail, etc. Mais vous avez la possibilité, si vous le désirez, si vous éduquez un tout petit peu le regard, de partir à l'aventure. Vous avez rendez-vous avec l'histoire partout où vous habitez. C'est gratuit, c'est immédiat. Alors amusez-vous à chercher ce qui se cache, posez-vous la question. Et en plus, c'est le meilleur moyen pour ne pas mourir. Voilà le secret de la meilleure des cures de jouvence, c'est de continuer à regarder le monde avec des yeux d'enfant. Avec vous poser des questions. Vous savez, moi j'ai fait de la philo, et en philo, le prof nous disait... Lutter contre les points finaux, contre les points terminaux. Posez-vous des questions. Le point d'interrogation, c'est le doute socratique. Vous savez, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est le doute cartésien. C'est le fait de se dire que le point d'interrogation, se poser la question, rester stupéfié, rester émerveillé, ça élève. Le point final rabaisse. Les certitudes, c'est qu'on va mourir. Donc luttons contre la mort, posons-nous des questions. Restons dans le doute et l'hypothèse.
Bravo. Eh ben. Incroyable. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Laurent Dol. Je viens de parler de son livre romanesque, La folle aventure de la langue française, aux éditions Michel Lafon.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jérémy Lorient, Mickaël Quiroga, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre invité Laurent Dodge, venu nous parler de son livre romanesque, La folle aventure de la langue française. Vous auriez pensé comme ça que vos livres auraient du succès? Laurent Dodge, ça a été une surprise, le succès de Métronome, parce que 2 millions d'exemplaires.
Oui, oui, total. Une surprise totale et un émerveillement et un rêve éveillé dans lequel je suis toujours et qui en plus a un peu, c'est vrai, changé ma vie puisque c'est devenu le principal axe et moteur de mes journées, à savoir de quoi je vais pouvoir parler, quelles recherches je vais entreprendre, quels voyages je vais faire. Ça m'a donné des ailes. Ouais.
Et alors quand vous étiez petit, Laurent Dodge, vous aimiez beaucoup Albator?
Oui. Ah bah oui, c'était un héros.
Vous connaissez encore le générique ?
Albator, le capitaine corsaire, tu règnes sur la galaxie. Et après j'ai un peu oublié la fin. Carmen Nausica sont avec
toi. On a l'impression
que
vous êtes resté encore un petit garçon.
Mais bien, mais c'est ce que je viens de vous dire.
Vous énervez pas.
Je suis en train de vous expliquer que je pense que la meilleure des cures de jouvence, c'est que le meilleur moyen d'affronter la vie et de lutter contre sa finitude terrible et absurde, qui est la mort, qui nous attend tous, eh bien, c'est de vivre encore et essayer de garder des yeux d'enfant. Regarder le monde avec des yeux d'enfant.
Je vous présente quelqu'un qui a une voix d'enfant, c'est Christine Bérou. Ah oui. Elle a des questions à vous poser.
Oui, parce qu'en fait, je voulais écrire un poème sur votre parcours, mais il me manquait des rimes. Je voulais donc vous proposer de les trouver à ma place. Mettez-moi une petite ambiance un peu lyrique, poétique. Voilà. Laurent Dodge a des ancêtres nés en Hongrie. Un point commun qu'il a avec des gens qui dansent le Sartaki, Nicolas Sarkozy, le créateur de Microsoft Word, Charles Simonyi.
Nicolas Sarkozy?
Oui. Aussi, ça marchait avec le créateur de Microsoft, mais ça marchait. Il y avait trop de pieds, mais bon. C'est technique, excusez-moi. Lorsqu'il est adolescent, Laurent Dodge a des ambitions folles. En effet, il rêve de devenir un gérant de music hall, une star du football ou carrément Stéphane Le Foll. Alors ?
Une star du football.
Bah voilà. On est une équipe là sur ce coup-là.
Ah ouais, je suis avec toi.
Alors, c'est maintenant qu'il faut parler.
Oui.
D'accord ? Alors, il se dirige finalement vers de grandes études. Le projet qu'il esquisse, c'est de travailler dans la police, légaliser le cannabis ou battre le record du lancer de petits Suisses.
Travailler dans la police ?
Eh oui, vous parlez vachement bien de vous. Finalement, il devient comédien et il est toujours au top, même quand il fait des horoscopes, de la pub pour Yop, des concerts de country dans des sex shops.
De la pub pour Yop ?
Oui, vous pouvez nous la refaire, la pub pour Yop ?
Tu sais que t'es pas mal comme fille finalement. T'es pas canon, mais t'es pas mal. Moi je suis d'accord pour être ton mec. Ça te ferait du bien d'avoir un mec. Et ça va pas arriver tous les jours, un mec comme moi qui se penche sur ton désert affectif. Quelqu'un qui m'a parlé là ? Oui, je voulais savoir, est-ce que t'as envie de te faire un Yop avec moi ? Un Yop ? Voilà.
Ah mais c'est cool.
On vous en parle tout le temps de cette pub encore.
Oui. Bah oui, c'était en plus c'était une pub qui avait été tournée par Bertrand Blier, qui était quand même un très grand réalisateur. Et puis elle a été beaucoup diffusée. Et c'est vrai qu'elle m'a en plus permis d'être encore plus un peu plus connue et de travailler plus.
Quoi. Alors après la comédie, sa spécialité devient les films historiques. Il est si beau qu'à le voir, on voudrait tous qu'il nous emmène en Afrique. Parle de la philosophie stoïque. Apprennent la mosaïque.
M'emmène en Afrique.
Oh, c'est romantique.
Oh la grosse.
Voilà de retour avec un ouvrage sur la langue française vraiment cool, qu'il faudra offrir à Noël à toute une foule, au rappeur Jules. À toute une foule, dont le rappeur Jules.
À toute une foule, dont le rappeur Jules.
Oui, j'adore. Vous avez déjà lu les tweets de Jules?
Non.
Mais le faites pas, parce que vous aurez un AVC. Donc voilà. Laurent Deutsch est un artiste et un philosophe. Pas étonnant qu'il soit fan des frères Bogdanov, de l'émission Apostrophe ou des chroniqueurs d'Anne Roumanoff.
Les chroniqueurs d'Anne Roumanoff.
Laurent Deutsch, c'est vrai que vous avez rêvé d'être policier, vous avez raté les examens de la police.
Ouais, j'ai raté les examens de la police.
Plusieurs fois.
Je voulais être à Interpol en fait, je voulais être en Europe centrale, je voulais travailler en Hongrie à un moment où je voulais vivre en Hongrie. Et je les ai passés une fois. Et ensuite, j'ai tourné un film avec mon meilleur ami, mon plus vieil ami dans le métier, qui est Jamel Bensalah, qui m'a dit mais arrête tes études, là, arrête de faire policier, etc. On va faire cinéma tous les deux, viens dans le manège avec moi, j'ai des rôles pour toi et ça va être ta vie, quoi. Tu vas pas partir en Hongrie. Et je suis resté grâce à lui. Ouais.
C'était Le ciel des oiseaux et ta mère,
c'est ça? Alors c'était après, c'était un film qui s'appelait Le Raid. C'était le deuxième film qu'on a fait ensemble et c'est le film après qui m'a fait que j'en ai enchaîné quelques-uns et que je suis resté. Mais c'est vrai que je voulais être dans la police, je voulais faire des enquêtes. Je voulais partir à la recherche d'énigmes, de traces, etc. Et l'avantage maintenant avec mon métier de passionné d'histoire, c'est que ces enquêtes ne me mènent à aucun crime, ou alors c'est des crimes bien datés, les os sont bien blanchis, et c'est plus du tout ni clivant, ni objet de souffrance. Moi j'aime l'histoire pour le côté divertissant, passionnant et rassembleur. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de mal avec l'histoire contemporaine, parce que souvent elle est instrument politique, ou en tout cas instrument où il y a encore des bourreaux, des victimes, et là c'est plus drôle, là on rigole plus. Donc forcément je m'en détourne un petit peu parce que pour moi le but d'une histoire et d'aimer l'histoire c'est d'agrémenter et d'améliorer ma journée.
Vous avez un historien d'ailleurs qui vous aide dans vos recherches?
Ah oui, j'ai un ami universitaire qui s'appelle Emmanuel Eman qui vérifie tout ce que je peux dire, qui corrige les sources et qui calme mon enthousiasme peut-être par moments déchaîné et débridé.
Parce que parfois vous avez été attaqué par des historiens, jaloux de votre succès aussi, parce que quand des gens passent 15 ans à faire des études universitaires très poussées et qui vous voient vous qui êtes finalement quand même un autodidacte de l'histoire, arriver à faire un succès, il y a une jalousie aussi compréhensible d'ailleurs.
Bien sûr, je la comprends, mais je leur ai dit, et je leur dis quand j'ai l'occasion d'en voir, des universitaires, etc. Moi, mon but, c'est de faire parler d'histoire. Moi, je suis un digicode, je suis un porte-voix. Si on peut, grâce à moi, grâce à mon travail, très modestement, lire de plus en plus d'ouvrages d'histoire et augmenter les rayonnages dans les grands magasins et sur Amazon et sur les sites, etc., tant mieux, j'ai gagné mon pari. Pour moi, je pense que aimer l'histoire, ça doit être un travail collectif, additionnel, et certainement pas un combat dans lequel certains veulent me faire tomber, etc., et qui m'intéresse pas, parce que, comme je l'ai dit il y a 3 minutes, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'elle est rassembleuse et que c'est passionnant et divertissant. Dès que ça devient objet de contestation, de combat, ça devient un combat, comme le revendiquent certains historiens. L'histoire est un combat, vous le lisez sur beaucoup de sites d'historiens. Ben là, ces sites-là, je ne les consulte pas. Pour moi, l'histoire n'est pas un combat. L'histoire, c'est un partage, c'est une passion et c'est une aventure.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
On a une tradition dans cette émission, Laurent Deutsch, c'est chaque jour on écrit une histoire.
Oui.
Pas l'histoire de France, mais une histoire. Donc vous allez piocher un mot dans ce chapeau.
Métro.
Voilà, alors lundi, Dominique Bessénard a commencé l'histoire. Mardi, Patrick Bruel l'a continué. Marie-Claude Pietragala l'a poursuivi hier. À vous de continuer cette histoire et vous allez écouter ce qu'ont fait les autres et à vous de poursuivre.
François Ier avait une sœur qui s'appelait Marguerite de Valois et qui était très douée parce qu'elle écrivait des livres. À l'époque, ce n'était pas courant. Hein. Elle faisait plutôt des enfants où elle mourait en couche, les sœurs des rois.
Oui, et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait une sorte de taverne dans le 5e arrondissement. Et c'est là qu'elle retrouvait l'un de ses amants, qui n'était autre que son cousin.
Et alors, avec son cousin, elle allait le soir à l'opéra. Elle aimait beaucoup, beaucoup la danse. Et donc, elle allait voir des ballets. Et elle imaginait, comme ça, en voyant ces danseuses étoiles virevolter, qu'un jour, peut-être, elle serait à la place d'une d'entre elles.
Et quant à François Ier, qui lui était plus porté sur le corps des danseuses que sur leur performance en tant que telle, eh bien lui n'hésitait pas à se rendre à partir de sa forteresse, hein, de son château, son palais du Louvre, dans la rue du Pélican, par un tunnel caché qu'on a découvert lors du percement du métro, du percement de la ligne 1, on a découvert ce tunnel qui le conduisait rue du Pélican, où il allait se divertir avec des filles de petite vertu, puisque Pélican est un mot moyenâgeux. Cette rue existe toujours dans Paris, et c'est un mot moyenâgeux qui ne décrit non pas l'animal, mais le sexe féminin, puisqu'autrefois, la chatte, on disait le con, et quand on avait du poil au con, c'était qu'on était une prostituée. Donc François Ier, par ce tunnel qu'on a découvert avec le métro, allait rue du Pélican, qui autrefois s'appelait la rue du poil au con.
D'accord.
Et c'est vrai, hein.
Mais je n'en doute pas. Merci Laurent Deutsch d'être passé nous voir. On rappelle votre livre romanesque, La folle aventure de la langue française, qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.